Donc, aujourd'hui, nous allons voir les sacrements et les vertus qui sont liées. Or, voyez-vous, nous avions vu les passions la dernière fois et les vertus humaines. Elles sont dans la page après les passions. Vous avez ce tableau qui nous dit ce que l'âme humaine désire entre le bien et le mal, ce qui nous rend heureux, ce qui nous contrarie, ce qui nous rend triste et ce qui nous donne de l'espoir. Alors, l'être humain, donc, tel qu'il a été créé par Dieu, a cette nature humaine sur laquelle Dieu va agir tout en respectant cette nature humaine. Vous voyez, il ne va pas faire des actions miraculeuses, particulières et extraordinaires tenir compte de l'être d'une personne, de cette union qu'il y a entre l'âme et le corps. Et nous subissons ces passions et nous subissons aussi ce qu'on appelle notre tempérament. Il y a des personnes qui sont mélancoliques, qui ne seront jamais très joyeuses, très exubérantes. Vous avez des personnes qui sont nerveuses, ce qu'on appelle les tempéraments bilieux ou mélancoliques, sanguins, les personnes colériques, au sens de la nervosité excessive, et les personnes qui sont lymphatiques. Alors, entre le bilieux, le mélancolique et le lymphatique, ou le phlegmatique, si vous voulez, c'est 4 grands tempéraments qu'on retrouve dans la philosophie ancienne. Alors de nos jours, vous avez des livres entiers sur les tempéraments, sur les différentes personnalités. Si vous voulez essayer de décortiquer l'âme humaine. Mais en règle générale, voyez-vous, ces tempéraments recoupent les 4 grandes inclinations humaines. Ceux qui sont mélancoliques, inquiets, voyez, ceux qui sont plus qu'inquiets et qui sanguins, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des réactions rentrées, plus ou moins. Voyez, le colérique, lui, est pas tout le temps en colère, mais très souvent en colère. Et puis vous avez le lymphatique, lui qui est assimilé à un paresseux, mais qui n'est pas toujours, en fait, c'est parce que en fait il, avant de réagir, avant d'agir, il réfléchit beaucoup, vous voyez. Voilà. Alors, par rapport à ces 100 tempéraments dans le mariage, ce sont des choses qu'on peut canaliser mais qu'on ne peut pas changer. On peut faire grandir quelqu'un, on peut lui faire faire des progrès, mais quand c'est un tempérament, c'est inscrit, si vous voulez, dans notre corps. Et quelqu'un qui est lymphatique ne deviendra jamais un nerveux. Voyez. Mais parfois un peu des deux, si vous voulez. Mais souvent, l'un de ces tempéraments l'emporte sur nous-mêmes. Alors, c'est comme toutes les classifications et les cases, hein, c'est totalement. Parfois, c'est quand même arbitraire, c'est un peu simplificateur. Par contre, ce qui l'est moins, ce sont ce qu'on appelle les péchés capitaux. où là, nous sommes face à des grandes vérités humaines, mais qui s'appliquent à tout le monde. C'est-à-dire que quel que soit notre tempérament, réservé ou expansif, les sanguins sont expansifs, sans forcément être colériques, si vous voulez. Eh bien, les sept péchés capitaux recoupent tout ce qu'il y a de difficultés dans l'âme humaine par rapport à un excès ou à un défaut. La vertu qui va lutter contre ces péchés, dont nous allons parler ensuite, eh bien, permet d'avoir un juste milieu. In medio stat virtus. Mais les péchés, eux, consistent justement à avoir par excès ou par défaut une attitude qui n'est pas juste et proportionnée. L'orgueil consiste à vouloir être plus et être considéré au-delà de ce que nous sommes. Et finalement, fondamentalement, peut-être à être ce que nous ne sommes pas. Ça peut être aussi de la fausse modestie, c'est-à-dire qu'on se diminue exprès pour obtenir la compassion, pour obtenir quelque chose de l'autre. Mais en fait, on s'estime plus, on s'estime supérieur, mais on se diminue faussement. Et enfin, le mot orgueil est plutôt réservé à ceux qui s'estiment excessivement, hein, au-delà de ce qu'ils sont. Et donc, par orgueil, voyez-vous, on va se vexer si on est humilié, si on considère qu'on est maltraité, qu'on n'est pas considéré à sa juste valeur. Et l'orgueil, comme une faute volontaire et consciente, c'est qu'on sait qu'on est excessif, on sait qu'on prétend à une valeur, à des connaissances ou à des qualités que nous n'avons pas. Des personnes peuvent se tromper sur elles-mêmes, sincèrement, mais l'orgueilleux, lui, est conscient qu'il veut plus et qu'il s'estime supérieur, alors qu'il ne l'est pas. Tout cela peut être l'origine de querelles comment dire, de disputes inutiles, puisque c'est faux. L'avarice, de la même façon, c'est la peur de manquer et l'accaparement. Donc on est là à accumuler des biens, à accumuler de l'argent, à accumuler des objets, ou si vous voulez, l'orgueil, lui, accumule par exemple des louanges ou des marques d'estime de la part des autres, et se vexe et s'attriste et est agressif, même parfois parce qu'on ne le loue pas ou on ne l'estime pas comme à la valeur qu'il désire. Tandis que l'avarice, c'est par rapport au bien matériel. C'est par rapport mais aussi aux vêtements, à la peur, et à un appartement aussi, au statut social qu'on a. Et là, on est entre l'orgueil et l'avarice, et la peur de manquer ou la peur de ne pas être, assez riche. C'est en raison de l'avarice qu'on ne prend pas de risque, voyez, par rapport au fait de prêter à quelqu'un d'accueillir quelqu'un chez soi. La gêne, la perte de moyens, de temps, la perte d'argent. On voit l'avarice d'une manière gentille, n'est-ce pas, par rapport à la fin d'un repas, qui va payer, vous voyez, c'est entre amis ou. Donc, tout cela, vous allez me dire, oui, mais c'est naturel, c'est pas forcément un péché. Mais si, ça devient un péché lorsque justement ça ça va à l'encontre de la vraie paix entre vous, voyez, le fait d'être mal à l'aise, d'être énervé, d'être contrarié par rapport à des liens matériels. Alors on se jette à la tête, hein, tu es orgueilleux, tu es un avare, tu es radin. L'envie est une autre blessure dans l'intelligence et la volonté de l'homme, hein, qui consiste à être triste du bien de l'autre. Un bien qui peut être immatériel, son intelligence, ses qualités, ses facultés, où on est triste, on est envieux de biens matériels de l'autre. Il est plus riche que nous, il a un plus grand appartement que nous. Mais l'envie frappe aussi bien les qualités immatérielles, intellectuelles, que les qualités, enfin que les biens matériels. On voit chez l'enfant tous ses péchés se manifester de manière extrêmement simple. Vous voyez, c'est la jalousie. Alors, tout ça est fondé sur une mauvaise compréhension de ce qui est vraiment bon pour moi, ce qui est mauvais pour moi. Est-ce que c'est mauvais pour moi? Est-ce que ça me rend triste de ne pas avoir les mêmes notes que l'autre, de ne pas avoir la même voiture que l'autre, de ne pas avoir le même salaire que l'autre? Est-ce que c'est un mal pour moi? Ah oui, ça me fait de l'ombre. Non, non. Du moment qu'on vit honnêtement et qu'on vit simplement, l'envie est vraiment un péché particulièrement inutile et terrible. Vous voyez, on dit que le péché de Lucifer a été l'envie. Parce qu'il voit Dieu dans sa puissance, dans sa beauté, dans son éternité, et il voudrait être à sa place. Voilà. Et moi, je vois quelqu'un qui fait 1m90, et je dis, j'aimerais faire 1m90. Ben oui, mais je ne ferai jamais 1m90. J'aurais beau faire des efforts ou me faire des opérations, ça serait épouvantable. Et quand bien même, à la fin, j'aurais des prothèses qui me m'élèveront à 1m90, je serai malade, j'aurai des greffons, des rejets, je serai malheureux comme tout. Mais Lucifer, lui, a voulu être Dieu. Donc, tout ça, c'est pas possible. Et c'est inutile. Alors,
aussi. Oui. Et puis, il fait pas d'efforts pour maigrir.
Oui.
Mais il voulait que quelqu'un d'autre être plus grand. Écoute.
Oui. Oui, mais enfin, il n'est pas très. Si vous parlez de Daniel, il n'est pas très gros. Hein. Il est plus gros. Hein.
Tout est ici, 13 ans.
Oui, oui, oui. Ouais.
20 kilos. Mmh. Et puis, il voulait. Il demande à quelqu'un d'autre d'être plus grand,
oui.
Plus moderne,
mm-hmm.
Plus à la mode.
Oui.
Par contre, peut-être lui, il ne fait rien d'effort sur
son poids.
Apparence.
Oui. Alors on va continuer, hein. Et puis quand on se verra à 3, on pourrait lui faire des reproches. Mais voyez-vous, la colère, c'est justement de s'énerver parce qu'on n'obtient pas ce qu'on veut. De s'agacer aussi. Et vous êtes là et il me fait des remarques, mais moi je lui fais des remarques, et puis ça monte, vous voyez. La moutarde monte au nez, vous voyez. Ça part de la bouche et puis ça va jusqu'au nez. La luxure, c'est le fait de rechercher les biens sexuels, les plaisirs sexuels de manière déréglée. Et donc on avait, si vous voulez, on en avait déjà parlé, je pense, et puis le couple vous en a parlé, c'est cette difficulté qu'a l'être humain de canaliser sa sensualité pour qu'elle soit à la fois expression d'un amour humain, de l'affection qu'on a l'un pour l'autre, et en même temps l'ouverture à la vie. Et c'est intrinsèquement lié, et même lorsque on est vieux, voyez, on peut encore poser l'acte sexuel, l'acte conjugal lorsqu'on est âgé, qu'il n'y a pas de vie possible par dégénérescence corporelle, et pourtant l'acte reste ouvert à ce caractère naturel de cet acte, quel que soit l'âge. C'est la raison pour laquelle, voyez-vous, même lorsqu'on a perdu sa fécondité, l'acte doit rester un acte humain, naturel et sexuellement naturel. Le fait que deux hommes ou deux femmes vivent ensemble, quel que soit leur âge, même s'ils ne sont plus féconds, c'est toujours le même problème de l'acte naturel. Et ça, c'est vraiment très, très difficile à l'homme, me semble-t-il, puisque la société moderne, actuellement, ne veut plus d'enfants. Voilà. Elle dit que c'est impossible, donc il n'y a plus que les pauvres, finalement, qui ont des enfants, parce qu'eux prennent le risque d'en avoir, ou sont inconscients d'en avoir, diront certains. Enfin voilà, seulement ils enterreront ceux qui n'en ont pas. On a trouvé le bonheur en n'ayant pas d'enfants, mais on va disparaître sans enfants. Et tous les pays qui ont peu d'enfants sont voués à l'extinction d'ici 50 ans. Oh, il y aura peut-être une guerre pour les aider à disparaître, mais ils vont disparaître. Par exemple, le peuple allemand, qui n'a plus que un ou deux enfants, va mourir. En 2050, ils ne seront plus que 10 millions de jeunes et 50 millions de vieillards. Donc les Allemands n'existeront plus en 2050. Comme ça, ils auront trouvé le bonheur dans la disparition.
Mais j'ai une question.
Oui.
Si on a des maladies familiales, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un enfant ?
Eh bien, c'est le risque de la vie. Et toute vie vaut la peine d'être vécue. Mais comme la maladie aussi de nos jours est devenue insupportable, on tue les enfants. Et on sait que l'enfant va être trisomique, par exemple. On le tue dans le ventre de sa mère pour être tranquille. Mais vous avez des personnes qui sont en bonne santé jusqu'à 35 ans, qui sont renversées par une voiture et qui sont tétraplégiques. Mais pour l'instant, les hommes suivent la nature humaine et le soignent, mais peut-être que dans quelques années, on les tuera. Parce qu'ils nous ennuient. Ils prennent du temps, de l'argent, ils n'ont qu'à mourir.
Mais après, si l'enfant il est né et puis il a toute sa vie, c'est la toute.
Mais oui, mais un enfant est capable de ressentir l'amour qu'on lui porte, malgré sa maladie. Et ça, vous voyez, c'est le message de Dieu. Et Dieu, du coup, justement, aussi, il a gâché la vie de sa maman, puisqu'il est mort à 33 ans, crucifié sous ses yeux. En soi, la Vierge Marie, au point de vue épanouissement personnel, si elle n'a pas cette dimension éternelle après la mort, c'est une drôle de destinée de voir son enfant mourir sous ses yeux, crucifié, insulté, calomnié. C'est aussi un très mauvais souvenir pour des années et des années. Mais en fait, comme Jésus ressuscite et redevient vivant, pour nous montrer justement que toutes les intuitions des peuples, qu'il y a une vie après la mort, et que l'âme continue à exister après la mort corporelle, cette intuition est d'autant plus vraie que un corps humain mort peut être reconstitué en parfaite santé avec une âme. Mais beaucoup, beaucoup d'êtres humains, à travers les siècles et à travers les pays, ne pensent pas qu'ils sont comme les animaux, qu'ils meurent comme les mouches, qu'ils meurent comme les chevaux, qu'ils meurent comme les oiseaux. Mais le fait que l'homme puisse comprendre ce qui l'entoure et transformer la matière, faire de l'art, du chant, du dessin, montre qu'il a en lui un principe de vie qui est radicalement différent de celui des animaux. L'homme peut chanter mille sons, l'oiseau ne chantera que le son que Dieu lui a donné de chanter. Même s'il est splendide, il sera unique. Vous voyez, c'est comme le nid des oiseaux. Il y a des nids qui sont absolument splendides, mais c'est Dieu qui les conduit dans un instinct animal, et ils feront toujours, comment dire, ce nid-là, avec une fantaisie, mais qui vient de Dieu, tandis que eux ne ressentent pas cette fantaisie. Pourtant, ils la vivent par la beauté de leurs plumes, par l'agencement de leurs pattes, de leur tête. Enfin, les chiens nous impressionnent. Il y a des chiens qui sont plus beaux que d'autres et qui sont impressionnants d'harmonie. Mais si vous voulez, eux-mêmes ne sont pas conscients qu'ils sont beaux. Nous, nous sommes conscients de ce qui est. Mais comment ça se fait? Si nous étions des singes, comment un singe atteint la conscience? Et pourquoi, depuis des siècles, aucun autre singe n'a atteint la conscience? Oh, mais il faut des millions d'années, tout ça. Ben, pourquoi pas? Mais sur les milliards et millions d'années, pourquoi il n'y en a pas certains qui atteignent la conscience, puisque eux aussi attendent depuis des millions d'années? Ben parce que Dieu nous révèle qu'il a fait la nature humaine radicalement différente, à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire avec la capacité d'aimer et de comprendre ce qui l'entoure. Les plantes ne se guérissent pas elles-mêmes en « tiens, j'aurais besoin de thym aujourd'hui », dit le blé, hein, pour, comment dire, parce que j'ai telle ou telle bactérie qui m'attaque ou telle nuisible qui m'attaque. Non. Les plantes vivent leur vie de plante. L'homme, lui, teste les plantes. Alors ceux qui ont testé la ciguë, ben, sont morts. Hein. Ceux qui ont testé le laurier rose aussi sont morts. C'est très très toxique. Mais ensuite, si vous voulez, ceux qui ont vu l'homme avoir testé le laurier rose et mourir, ils disent, ah, on a bien noté que ça, cette plante-là, il ne fallait pas la manger. Et les jeunes gens, justement, ils ont des baies qu'ils voient dans la forêt, tout ça. Et les personnes âgées, qui ont vu mourir des personnes qui avaient mangé ces baies, ont dit, oh, attends, ça c'est du poison. Et bien, cette accumulation de connaissances, et aussi cette abstraction du fait de savoir que des plantes sont bonnes ou mauvaises, c'est toujours le propre de l'homme. Et voilà. Et l'homme est différent. Ce qui fait que notre sexualité ne peut pas être que animale. Les chiens, les chats font des rencontres fortuites, ont une union sexuelle et s'en vont. Tandis que nous, nous voulons toujours savoir qui est notre père, qui est notre mère. Alors bien sûr, parfois il y a des moments durs dans l'humanité où il y a des guerres et tout ça, on se résigne du fait de ne pas connaître son père, de ne pas connaître sa mère, parce qu'ils sont morts. Mais il n'y a qu'à voir le soin instinctif, vous me direz, non, naturel, humainement naturel, de toutes ces années de dépendance. Le petit de l'homme est l'être le plus dépendant de tout le règne animal. Même à 4 ans, il meurt de faim s'il n'est pas nourri. Il ne peut pas se nourrir lui-même. Même à 5 ans, est-ce qu'un enfant de 5-6 ans pourrait se débrouiller dans une forêt? C'est incroyable la fragilité de l'être humain, mais c'est aussi lié à la nécessité de son éducation. Parce que l'être humain n'est pas seulement un être qui va savoir manger tout seul, comme les autres animaux. Il faut aussi qu'il sache parler, s'exprimer, entrer en relation, parce qu'il désire cette relation. Et d'ailleurs, son âme et sa capacité intellectuelle, de tout être humain d'ailleurs, rend le langage qu'il entend. Et la langue maternelle, la langue de ses parents. Alors c'est la raison pour laquelle Dieu nous embête sur notre sexualité. Il nous dit, vous avez une sexualité qui est ouverte sur la famille. Alors nous qui découvrons un plaisir particulier dans la sexualité, on dit ah bon, je vais devoir avoir qu'un seul homme, qu'une seule femme. Oui, parce que la sexualité humaine, elle est ouverte sur la vie commune et aussi l'éducation des enfants si nous avons des enfants, si on a cette fécondité. Alors cette âme humaine, elle peut être justement épaisse au point de ne pas vouloir agir. Et c'est la paresse. Mais la paresse, elle peut être très passive par définition, mais il y a une paresse active où c'est quelqu'un qui fuit tout ce qu'il doit faire en faisant autre chose. Et ça, voyez-vous, c'est, comment dire, c'est ce défaut de l'homme d'être activiste, de faire plein de choses sauf ce qu'il doit faire. Alors c'est pas vraiment de la paresse, c'est de la lâcheté plutôt. Et enfin la gourmandise, ben là c'est lié au corps aussi comme la luxure, c'est le plaisir du goût. Le plaisir du goût à l'excès. Alors vous allez me dire, s'il a pris 20 kilos, c'est parce qu'il était gourmand. Oui, mais c'est peut-être aussi parce qu'il vieillit. Parce que les hommes, à 50 ans, s'ils n'ont pas fait du sport et tout ça, ils ont une bedaine. Hein. On fait le tour du monde, à 50 ans, tous les hommes ont une bedaine. Sauf ceux qui travaillent tous les jours dehors, qui font du sport ou qui mangent mal. Il y a un relâchement. Oui, mais aux États-Unis, ils sont gourmands. Ils prennent du sucre sans arrêt. Donc, c'est pas une bedaine d'un homme de 50 ans. C'est de la. Comment ça s'appelle? C'est de l'obésité. Enfin, j'ai pas l'impression. Vous voyez, quand il y a un pli vers l'intérieur, c'est qu'en général, la personne n'est pas obèse. Alors, tout cela nous fait trouver les vertus cardinales qu'on avait peut-être vues ensemble, je crois, non ?
Oui.
Et donc, je passerai un peu plus vite pour vous, mais la prudence consiste dans la vie humaine à choisir les meilleurs moyens et les mettre en action. Je veux obtenir l'attention de cette personne, et ben je vais la rencontrer, je vais lui parler. Mais est-ce que je vais lui parler de manière incongrue? Est-ce que je vais être impoli? Enfin, c'est. La prudence demande du conseil, d'analyser les moyens, les possibilités, en vue d'une fin, d'un but. Et on réfléchit, on prend conseil aussi des autres. Et après, on discerne le meilleur moyen. Tout cela, on peut se faire aider. Un chef peut avoir un conseil d'administration, un conseil de guerre. Il peut avoir des personnes qui lui donnent le meilleur moyen à utiliser, le meilleur angle d'attaque. Mais vous, dans votre vie, si vous voulez acheter un appartement, voyez, ben vous allez prendre conseil, vous allez voir quels sont les financements, vous allez aller dans une banque, puis dans une autre. Vous allez voir si vous avez des économies, si vous pouvez faire un apport. Si vous voulez changer de métier, vous allez prendre conseil, vous allez savoir si vous serez compétent dans ce métier, dans ce nouveau métier. Est-ce que vous allez vous lancer dans une autre... voyez, dans un... Ou alors, vous voulez vous séparer parce que vous êtes triste et ça ne va pas du tout. Mais est-ce que, comment dire, vraiment, vous allez tomber amoureux d'une autre personne à l'avenir? Est-ce que c'est la personne de votre vie? Est-ce que ses défauts ne sont pas inférieurs à ses qualités? Est-ce que vous allez à nouveau entrer en recherche d'une âme sœur? Et à un moment donné, il va falloir juger. À force de réfléchir, on tourne en rond. À un moment donné, il faut décider. Je reste avec lui ou je pars. Sauf que, vous voyez, dans le mariage, il faut beaucoup réfléchir. Et comme actuellement, on ne réfléchit plus, et qu'en plus, les familles ne nous font plus réfléchir, et que la société ne veut plus réfléchir, eh bien, c'est simple, on divorce. Seulement, ce n'est pas la nature des choses. Quand un homme et une femme se sont mariés, ils n'ont pas le droit de divorcer. Ils se sont engagés. Alors, ils peuvent se séparer si la vie devient intolérable et s'il y a une menace de mort, si la personne est violente, frappe et autres. Mais si les défauts sont inférieurs à cette gravité-là, eh bien, l'être humain est appelé à pardonner.